Alors, vous avez reconnu la voix de François Legault, donc le chef de la coalition Avenir Québec, qui présentait sa nouvelle candidate pour le comté de Brome-Missisquoi ce matin. C'est la médaillée olympique en patinage de courte piste, Isabelle Charest. Et pour en discuter de cela et de bien d'autres choses, Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec. Bonjour, Antoine.
Bonjour.
Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Bonjour,
bien
Alec.
Bonjour.
Antoine, oui, c'est ça, Isabelle Charest qui va tenter de succéder à Pierre Paradis.
C'est quelque chose, ça, comme annonce ce matin, puis on l'a entendu à quel point M. Legault était fier de cette candidature-là. Donc, ça va bien là, pour les candidatures du côté de la coalition Avenir Québec. Évidemment, c'est pas gagné d'avance parce que quand même la CAQ avait obtenu 27-28% en 2014 contre 45%, mais évidemment, c'était Pierre Paradis. Et là, Pierre Paradis, on sait à quel point il quitte dans la disgrâce. C'est pas encore sûr qu'il se présentera pas, mais je mettrais un bleu facilement, même un rouge sur le fait qu'il se présentera pas.
Ouais. Oui. Ben, mettons que ce serait très, très, très surprenant qu'il soit candidat.
Ça serait surprenant, mais en même temps, on l'a vu dans son différend avec et dans sa querelle avec la commissaire à l'éthique, dans un des textes qu'il a écrit, il disait qu'il voulait participer à la campagne.
Oui.
Donc, quel rôle va-t-il avoir dans cette campagne-là ou quel rôle entend-il prendre? La question est encore ouverte, là.
Oui. Mais mettons qu'avec les sondages actuels, Madame Isabelle Charest dans Brome-Missisquoi a d'excellentes chances de remporter.
D'excellentes, oui. Hein, on s'entend, absolument. Puis c'est vraiment une belle candidature, une femme qui fait toutes sortes de choses, là. C'est impressionnant, parce que non seulement elle est médaillée olympique, mais je veux dire, dans son après olympique, dans sa vie post-olympique, là, c'est incroyable tout ce qu'elle fait, là, tu sais, coordonnatrice des communications à la commission scolaire Val-des-Cerfs, est dans le réseau Énergie Cardio, elle a une franchise.
Elle est entrepreneur.
C'est assez impressionnant, puis on comprend M. Legault d'être très heureux. C'est une femme de 47 ans. Une femme, c'est important. C'est important pour la coalition Avenir Québec qui s'est donné justement l'objectif là, dans les derniers mois de séduire davantage les femmes. On sait que c'était une difficulté dans tous les sondages. Ça remontait un peu d'ailleurs dans le dernier sondage.
Oui. En fait, ils ont pris la tête chez les femmes dans le dernier sondage. On ne l'a pas suffisamment noté, ça.
C'est vrai.
Et il s'est engagé à créer un conseil des ministres paritaire aussi. Hein?
Oui. Puis là, en tout cas, il est paritaire. Jusqu'à maintenant, il est paritaire dans les candidatures. C'est vraiment, encore une fois, des bonnes nouvelles pour la coalition Avenir Québec.
Et ça prépare un beau duel avec celle qui sera probablement, c'est pas confirmé, la candidate libérale, la sommelière Jessica Arnois.
Oui, ça se peut. Tout à l'heure, au Parti libéral, on voulait pas me le confirmer encore, effectivement... ça semble être certain que ça soit elle. Là. En tout cas, ça
se dessine pour ça.
Ça tend vers ça. Moi, je l'ai entendu, Jessica Arnois, au Conseil général. C'est une femme qui est aussi une femme d'affaires. Ça rejoint certains aspects d'Isabelle Charest, sauf que l'une, c'est le sport, l'autre, c'est la boisson. C'est deux choses différentes, mais... Mais dans le raffinement, toutes les deux.
Et les deux qui ont très bien réussi, chacun dans leur domaine.
Oui, absolument.
Très bien. Veux-tu qu'on finisse avec Paradis, là, donc, sa mise en demeure à l'égard de la commissaire à l'éthique? Quelle suite ça aura, ça, Antoine? Est-ce qu'on le sait?
Écoute, la Cour suprême, dans le législatif, là, c'est le président de l'Assemblée nationale.
Ouais, hein?
C'est lui qui a le dernier mot.
Bon.
Je m'explique, là, pour les gens qui nous écoutent, là, il y a une séparation des pouvoirs. Il y a le judiciaire, il y a le législatif, il y a l'exécutif. C'est les trois branches de l'État. Puis dans le législatif, quand on a quelque chose à reprocher à l'institution, tout ça, quand on se fait attaquer par l'institution qu'on veut défendre nos droits, on est pris avec cette institution-là à poser la question au président. On n'a pas le choix. Donc, ça veut dire qu'il va d'abord aller là, il va se plaindre au président. Ensuite, il peut essayer ailleurs, là. Yves Michaud, qui a été blâmé en le 14 décembre 2000 par l'Assemblée nationale, a essayé, il est allé jusqu'en Cour suprême.
Bon.
Puis tous les tribunaux ont dit quoi, Bernard? Ils ont dit que c'était la séparation des pouvoirs, puis c'était au législatif à s'occuper de ces problèmes.
C'est ça.
Donc, le législatif est donc souverain, si on veut, dans la sphère de ses compétences. Donc, j'ai l'impression là que M. Paradis, c'est de ce côté-là qu'il va devoir se tourner. Est-ce que... Et peut-être que le président peut faire appel à une décision ou un rapport de la commissaire. Je sais pas.
On va voir. En tout cas, la commissaire risque d'être occupée parce que on apprend au moment où on se parle, là, c'est les collègues de Radio-Canada qui sortent ça, que le ministre Robert Poitier va se tourner vers la commissaire à l'éthique pour lui demander un avis. Parce qu'il a accepté de devenir le prochain PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, Robert Poitier. Et là, il veut savoir s'il est en conflit d'intérêts en acceptant ce poste-là. Donc, il va demander un avis à la commissaire à l'éthique. Donc, on verra bien ce qu'elle...
Ça vient de tomber.
Effectivement. Donc, on se demandait, il quittait la vie politique, on se demandait s'il avait déjà quelque chose d'attaché.
Donc, il y avait sans doute quelque chose d'attaché.
Il y avait quelque chose d'attaché, mais là, il veut être sûr qu'en l'acceptant, il ne s'est pas lui-même placé en conflit d'intérêts. C'est l'avis qu'il va demander, donc,
c'est
à la commissaire à l'éthique. Ouais. Parlons un petit peu, Alec, de Doug Ford, qui commence à prendre ses aises.
Mm-hmm. Le règne Doug Ford à la tête de l'Ontario qui commence.
Et ça commence, pour ceux qui trouvent que la bourse du carbone est une bonne idée, ça commence mal.
Et la lutte au changement climatique au sens large. On peut pas dire que Doug Ford est un grand fervent de la lutte au changement climatique. Sa première décision comme premier ministre, là, il l'a annoncé vendredi en fin de journée, c'est de se retirer de la bourse du carbone que l'Ontario, depuis 2017, a jointe avec le Québec et notamment la Californie. C'est le plus grand marché d'échange de crédits d'émissions en Amérique du Nord. Puis bon, l'Ontario avait joint ça en 2017, mais là, il va s'en retirer. Puis immédiatement, par effet de ricochet, le Québec et la Californie ont fermé leur marché aux entreprises de l'Ontario. C'est inévitable parce que ils ont peur que les entreprises ontariennes qui ont acheté pour presque 2,8 milliards de dollars de crédits sur cette bourse-là...
Les liquides, sachant
que l'Ontario va se retirer dans les prochains mois.
Donc, et là, ils vont vouloir récupérer leur investissement.
Puis là, ça va faire chuter la valeur de chacun des crédits. Alors là, les entreprises ontariennes qui ont acheté pour presque 3 milliards ne peuvent plus transiger sur cette bourse-là.
Oh, ça risque de coûter cher au Trésor ontarien, ça, parce que les entreprises vont pouvoir demander une réparation.
Et là, écoute, c'était d'une légèreté époustouflante vendredi en conférence de presse, lorsque les journalistes demandaient à Doug Ford, allez-vous rembourser les entreprises?
Ben oui.
Il a dit non, parce que ça va faire baisser le prix de l'essence, donc elles vont en profiter.
Hein? Que ça ressemble à la logique de Trump.
Tu trouves pas? Ben oui, là, tu te dis, OK, mais là, c'est parce qu'ils ont déjà dépensé pour 3 milliards. Les poursuites vont inévitablement suivre. Là, si vous les compensez pas, ils vont vous poursuivre pour les sommes qu'ils ont investies à long terme là-dedans. Puis d'ailleurs, c'est ce que Gerald Butts, le conseiller de Justin Trudeau, a dit sur Twitter dans un tweet assez lapidaire. Il a dit « Le bruit des crayons qui s'aiguisent que vous entendez, c'est celui des avocats qui vont faire pas mal d'argent dans les prochaines années parce qu'il va y avoir beaucoup de poursuites contre le gouvernement ontarien. »
Bien certain.
Ben oui. Alors...
Autre
décision de Doug Ford, parce qu'en se retirant de la bourse québécoise et californienne sur le carbone, l'Ontario redevient assujetti à la taxe sur le carbone du fédéral. Parce que le fédéral avait dit toutes les provinces qui n'ont pas de mécanisme de tarification du carbone pour lutter contre les changements climatiques vont devoir être assujettis à une taxe à partir de 2019, 20 $ par tonne de carbone émis.
Ça va monter graduellement. À la pompe, quand tu te fais livrer du gaz naturel pour chauffer ta maison.
Tout ce qui est énergie fossile,
Lorsque tu
vas en consommer une tonne,
tu vas
payer une taxe. Et donc, éventuellement, ça va être refilé au consommateur. L'objectif, c'est de changer les habitudes de consommation. Puis cette taxe-là, elle est supposée d'augmenter. Mais là, l'Ontario et le Québec avaient leur bourse sur le carbone. La Colombie-Britannique et l'Alberta ont déjà leur taxe sur le carbone. Il ne restait plus de grandes provinces là, vraiment assujetties à cette taxe fédérale-là, sauf la Saskatchewan qui est déjà devant les tribunaux.
Non assujettie. Elle l'était toute sauf la Saskatchewan. Hein?
C'est ça. En fait, la Saskatchewan avait dit « Nous, on s'en va devant les tribunaux puis on va contester la constitutionnalité de ça. » Et là, Doug Ford a annoncé qu'il allait joindre la poursuite de la Saskatchewan. Donc, l'Ontario va devenir, elle aussi... l'une des provinces qui va se battre contre le fédéral pour ne pas être assujettie à cette taxe-là. Donc, ça fait... il va y en avoir quelques-unes des décisions comme celle-là de Doug Ford parce qu'il a fait campagne sur un programme étonnamment mince, étonnamment simpliste. Il n'a même pas présenté ses prévisions budgétaires. Là, Doug Ford, il n'y avait pas de cadre financier dans sa campagne.
Ça laisse
place à beaucoup de marge de manœuvre une fois au pouvoir. Il n'y a pas beaucoup d'engagement à suivre. Alors,
il a promis de baisser les taxes, les impôts, le prix de l'essence...
Le prix de la bière. pris de la bière.
Il n'a pas parlé de compression trop. Hein. Il a dit qu'il ferait du ménage.
Il ferait du ménage, personne n'allait perdre son emploi.
Puis qu'il allait ramener le gouvernement à l'équilibre avant longtemps, alors que l'Ontario a un énorme déficit.
Ouais, plusieurs milliards de dollars. Non, ça...
Ça balance pas son affaire.
Non. Voilà. On va avoir quelques décisions comme celle-là dans les prochains mois à suivre.
On s'entend. Juste avant d'aller à la pause, Antoine, parle-nous vite de...
Robert Poitier.
Justement, soyons cohérents. On en a parlé un petit peu. Son comté étant libéré, ce serait celui où Hélène David pourrait atterrir. Hélène David qui perd son
Donc,
propre comté.
Donc, écoute, le départ de Robert Poitier, Bernard, il aurait servi à quelque chose.
Ben oui.
Parce que c'est un départ surprise. Il lui-même avait été investi le 11 décembre comme candidat dans Marguerite Bourgeois. Puis il a démissionné là, récemment. Ça a été une surprise. En fait, il n'a pas démissionné, mais il a annoncé qu'il se ne représenterait pas. Alors cet après-midi, on va annoncer à 16h30 que c'est Hélène David, l'actuelle ministre de la Condition féminine, enseignement supérieur.
Bon.
Madame David là était sans circonscription fixe, sans domicile fixe, parce que son comté a été fusionné avec celui de Mont-Royal, qui est occupé par Pierre Arcan. Puis Pierre Arcan, il se représente aussi. Donc, on se demandait bien où allait aboutir Hélène David. À un moment donné, on était quasiment sûr qu'elle allait dans Westmount, mais finalement, ce qu'on a dit, c'est que les gens de Westmount voulaient une personnalité anglophone.
Ah, puis à un moment donné, ça en allait dans Saint-Laurent? Jusqu'à temps que Marois Risky débarque?
Oui,
c'est vrai. Elle s'est fait balloter.
Ah oui. Et donc, elle va atterrir dans Marguerite Bourgeois, puis ça va être annoncé cet après-midi.
Et parlant d'atterrir, il y a Daniel Breton, l'ancien ministre de l'Environnement dans le gouvernement Marois, qui, lui, atterrit dans Saint-Hyacinthe,
et c'est loin d'être gagné pour Daniel Breton. C'est un retour pour lui, comme tu dis. Il a été brièvement ministre. Ça a été très difficile. Il y a eu toutes sortes de controverses, que ce soit le BAP, que ce soit ses dépenses passées, puis sa situation financière qui n'était pas claire. Donc là, il revient, mais c'est quelqu'un qui connaît vraiment les dossiers environnementaux, qui tripe sur l'auto électrique, qui a pas arrêté d'être militant aussi depuis qu'il a quitté la politique. Le voilà de retour. Certains disent c'est la preuve qu'on a de la misère à recruter des gens au Parti québécois. En même temps, c'est un vrai militant. Là, c'est quelqu'un qui est sûrement pas là par opportunisme. Mais dans Saint-Hyacinthe, là, ça sera pas facile. C'est Chantal Soucy actuellement qui a le siège et elle avait déjà une majorité de 1222 voix contre, justement, Émilien Pelletier, lui qui avait détenu le siège jusqu'en 2014. Et qui avait juste obtenu 30% des voix. Donc, avec les sondages actuels, ça va être difficile. Ça va être une tâche très difficile pour Daniel Breton de ravir cette
circonscription. Oui, parce que Chantal Soucy, c'est une députée caquiste.
C'est ce que j'ai dit?
Non, mais tu n'as juste pas mentionné qu'il était pour la CAQ. Donc, la CAQ détient déjà une circonscription.
Excuse-moi. Et à l'époque, pensais que je l'avais dit. La caquiste Chantal Soucy.
Il était pas mal moins fort dans les sondages à l'époque. Là, donc, c'est pour ça qu'on dit que ça va être difficile.
Oui. Mais comme tu dis, Antoine, Breton, on ne peut pas dire qu'il revient...
par opportuniste. En 2012? Ça allait mal en 2012 quand il a plongé.
Ah oui, puis il y a...
Je me souviens, ça avait été annoncé à un conseil national, c'était comme la surprise parce que Daniel, on l'entendait beaucoup parler de lui. Là, il avait dénoncé l'histoire d'Anticosti à l'époque.
Sa candidature à ce moment-là était la bonne nouvelle qui était venue casser un cycle de mauvaises nouvelles qui frappait Pauline Marois et le leadership de Pauline Marois. Et je veux te dire franchement, à l'interne, quand il a été nommé ministre, c'est un gars qui connaît beaucoup l'environnement, mais aussi certains d'entre nous, ils voyaient aussi une récompense pour le fait qu'il était venu porter secours à Pauline au moment où son leadership battait de l'aile. Il y avait une forme de reconnaissance pour ça. Puis c'est bien correct. C'est bien correct. Alors là, maintenant, est-ce que ça sera pas facile? Ça sera pas facile pour Daniel Breton. Mais il est resté militant, effectivement, après avoir quitté la politique. Donc, il continue à se battre pour ses idées. OK, on va s'arrêter parce qu'au retour, il faut parler de la légalisation du cannabis. On sait, on commence à voir la fenêtre qui se précise. Là. Quand est-ce qu'on va pouvoir l'acheter légalement, le pot, là, après la pause? De retour avec notre duo infernal, les batraciens, les super batraciens. Ouh, très bien, très bien. Alors aujourd'hui, on a un nouveau metteur en onde qui nous accompagne. Vous avez vu qu'il avait le...
Les vite sur le piton.
Lui aussi, bon réflexe.
Sur le nénuphar.
Des bons réflexes. Très bien. Alors, Alec, parle-nous donc du cannabis qui devrait être légalisé finalement au mois de septembre.
Oui, en septembre, parce que le secrétaire parlementaire, à la fois de la ministre de la Santé et de la ministre de la Justice, Bill Blair, parce que c'est lui qui est responsable du dossier de la marijuana au gouvernement Trudeau, donc il est comme le bras droit et gauche des deux ministres qui chapeautent cette législation-là, a dit hier sur les ondes de CTV à l'émission Question Period que si le Sénat passe le projet de loi d'ici la fin de la semaine, ce qui est une forte probabilité, parce qu'on va voter probablement en fin de journée aujourd'hui à la Chambre des communes pour renvoyer le projet de loi amendé au Sénat, puis là, ils vont en débattre pendant une journée ou deux, puis on devrait avoir la décision vers la fin de la semaine. Fait que c'est possible que le Sénat, vers la fin de la semaine, au début de la semaine prochaine, adopte le projet de loi sur la légalisation du cannabis, auquel cas, on laisse 8 à 12 semaines donc de temps pour que les provinces puissent s'adapter, ce qui amène, d'après ce que Bill Blair a dit, entre le 1er et le 15 septembre. Donc, la date n'est pas tout à fait arrêtée, mais donc, d'ici la mi-septembre, là, si tout se passe bien, cette semaine, à la Chambre des communes et au Sénat, on devrait pouvoir se rendre dans un magasin de la Société québécoise du cannabis, si elles sont,
si elles sont ouvertes.
Là, c'est ouais.
S'ils ne sont pas en grève?
Ça commencerait toute une... Ça commencerait quelque chose d'assez spectaculaire, une grève en commençant comme ça. Mais donc, alors ça serait donc à la mi-septembre que ce serait disponible. Reste à voir, il reste là un os à gruger du côté du Sénat là, qui est est-ce que oui ou non... on va permettre la culture à domicile dans les provinces. On sait que le Manitoba et le Québec sont contre. L'amendement des sénateurs a été rejeté par les députés et ils y tiennent. Il y a beaucoup de sénateurs du Québec en particulier qui tiennent à cet amendement-là, qui n'ont pas été contents de se faire dire non par la Chambre des communes. Donc,
la conséquence, c'est quoi, Alex? Si mettons que les sénateurs, notamment du Québec, refusent le refus.
Oui, hein? La nouvelle mouture du projet de loi qui contient encore la possibilité de faire pousser jusqu'à 4 plants.
Ouais. C'est ça. Est-ce qu'ils pourraient à ce moment-là décider de retourner...
Oui, ils peuvent.
Retourner à la Chambre des communes...
Il peut y avoir une partie de ping-pong entre les deux.
Ça pourrait retarder l'ajournement de la Chambre des communes.
Exactement. Généralement, ils finissent, après qu'il y ait un ou deux échanges comme ça, ils finissent par créer un comité qui vise à aplanir les différends, puis on s'entend souvent assez rapidement. Il n'y a pas eu de longue partie de ping-pong depuis que le Sénat est plus indépendant qu'auparavant. Il y avait eu, souviens-toi, l'aide médicale à mourir, qui était pourtant une question émotive. Après quelques jours de débat, le Sénat avait plié puis s'était rendu aux arguments de la Chambre des communes élus, parce qu'ils ne sont pas élus, les sénateurs, donc c'est toujours un peu ce qui les retient de faire une bataille là, rangée qui étire indûment les délais. Là. Alors, je pense qu'ils vont essayer de se battre un peu. Ils vont peut-être renvoyer une version du projet de loi, mais je pense que d'ici une semaine, probablement 10 jours, là, j'imagine que la version à laquelle tient le gouvernement Trudeau va être adoptée.
OK. Donc il bougera pas finalement sur la question des plans à la maison.
Ça m'étonnerait.
Et tu, si je te comprends bien, tu anticipes que les sénateurs québécois vont finir par lâcher le morceau.
C'est mon impression.
Très bien.
C'est mon impression. Mais on verra bien. Il peut se passer toutes sortes de rebondissements, mais c'est mon impression.
Absolument. François Gendron, mon cher Antoine, François Gendron, le député doyen qui a le record mondial pour le nombre d'années ayant siégé
à l'Assemblée nationale.
Qui règle ses comptes avec pas mal tout le monde.
Oui, hein? Ah oui, c'était vraiment... il a tiré tous azimuts, comme on dit. Et donc, il reproche au Parti québécois de ne pas avoir... promu la souveraineté davantage. Il trouve que ce manque de promotion-là, c'était une grave erreur. Je trouve qu'il s'exprime un peu comme Martine Ouellette. Il dit qu'il faut en parler. Il est revenu à la phrase de René Lévesque, là, sortir, parler, convaincre.
Oui.
Et Martine Ouellette disait à peu près la même chose dans les deux... course à la chefferie auquel elle a participé. Elle répétait ça. Comme, évidemment, chef du Bloc, ça a même mené à une scission du Bloc. Là. Il fallait parler de la souveraineté toujours, même si on parlait de n'importe quel sujet, là. Des paradis fiscaux, de la protection du consommateur. Toujours revenir à la souveraineté. Et il y a bien des souverainistes qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais ma question à François Legault, moi, ce serait, mais pourquoi vous ne l'avez pas appuyé, Martine Ouellette? Les deux fois, elle a
François
appuyé...
François Gendron, tu veux dire? T'as dit François Legault.
J'ai-tu dit Legault?
Oui.
François, excuse-moi, merci. Gendron. François Gendron, pourquoi il l'a pas appuyé, Martine Ouellette? Mm-hmm. Hein? Il a appuyé Alexandre Cloutier les deux fois, si je ne m'abuse. Mm-hmm. Donc, il dit que le Parti québécois n'a produit aucun document substantiel décrivant les avantages de l'accession au Québec, du Québec au statut de pays. Alors,
Ça c'est vrai, mais je veux dire, c'est un peu facile, là, François, là. De déposer
puis
ça.
Il dit, quand Martine Ouellette dit des affaires dures liées à la lecture qu'elle fait du mouvement souverainiste, je suis obligé de dire, elle est dedans en étoile.
Oui, oui, oui.
Et elle le connaît, le mouvement souverainiste.
Ben oui.
D'accord, mais est-ce que c'est...
Il était où, Gendron, quand c'était le temps de faire la promotion de la souveraineté? Là, il va me dire... Ah, mais s'il était là, il me dirait, ben là, étoile, j'en ai fait des discours, mais là, écoute, blablabla. Mais je veux dire, c'est... Moi, là,
tu sais, je pense que ça masque les autres causes aussi du déclin de la souveraineté. Tu peux pas... Tu sais, il y a bien des souverainistes, moi, qui m'ont dit récemment... la technique de Martine Ouellette de dire qu'il faut toujours parler de souveraineté. C'est comme un amoureux qui dit à sa blonde, faut toujours... Hey, fais l'amour parce qu'on s'aime. Fais l'amour, à un moment donné, c'est assez, là.
Tirer sur les fleurs pour les faire pousser plus vite.
Exactement.
Non.
Puis ça masque les autres causes, Puis lui-même évoque la cause de l'individualisme. Il dit mon divorce, mon skidou, mon régime de retraite. C'est ça aussi, ça mine les projets collectifs comme celui de la souveraineté du Québec. Je pense qu'il a raison de ce côté-là.
Oui.
Il y a d'autres causes le fait que le parti québécois en a moins parlé de la souveraineté.
Il n'y a pas juste le mouvement souverainiste qui est... tu sais, tout le collectif est mis à mal.
Tout le national, hein?
Mais le collectif, c'est-à-dire le mouvement syndical vit des moments difficiles. Le mouvement communautaire a de la difficulté à recruter. Le mouvement souverainiste aussi vit cette crise du collectif, là. Tu sais, mettons que si tu veux vraiment donner une entrevue, là, où tu veux blâmer... dans le fond, tu blâmes pas mal tout le monde, sauf toi-même, pour l'échec de la cause. Je veux dire, je regarde, François, t'es là depuis 76. Si t'es pour donner une entrevue comme celle-là, prends ta part. Prends ta part de responsabilité là-dedans. Mais tu peux pas arriver puis dire c'est de la faute des autres, puis il y avait pas de documents, mais t'as fait quoi, toi, là? C'est quand la dernière fois que tu t'es levé dans un conseil national pour faire voter une motion pour exiger que le dit document soit déposé? Tu sais, je trouve ça un petit peu facile, moi, Antoine.
Varlope Québec solidaire aussi, il dit que c'est la gauche caviar, dont le programme est farci de niaiserie.
Ouais.
Ben, oui, il y avait le frère
parler. Mais il y a un petit peu, tu trouves pas que c'est une entrevue qui, moi je trouve, il y a beaucoup d'amertume dans cette entrevue-là.
Énormément.
J'ai l'impression d'un gars qui, je suis pas sûr que c'est ça.
C'est attaqué aux médias aussi dans cette entrevue-là.
Peut-être pas sa meilleure idée.
Il parle de la horde de commentateurs de tout acabit.
Ben oui.
Qui pollue les ondes.
OK.
Il y a trop d'opinants qui opinent. C'est nous autres, ça!
Ça a l'air à ça.
Alors?
Ça a l'air à ça.
Arrêtons d'opiner.
Après moi, le déluge.
Ça sonne un peu comme ça.
Puis moi, je n'étais pas là pour mettre des digues.
C'est ça. Oui.
Un peu là, hein, un peu ça. Hein.
Bon, alors, rapidement, Chicoutimi-Lefier, ça vote en ce moment, mon cher Alex, ça vote en ce moment et je veux entendre tes prédictions.
Boy!
Hein? Qu'est-ce que t'en penses?
Ne jamais faire de prédictions. D'abord, c'est ma première loi, c'est ne jamais faire de prédictions. La politique étant trop imprévisible.
Ouais.
Mais moi, je pense, écoute, mon impression, si on se fie au sondage qui donne Richard Martel, le candidat vedette du Parti conservateur, en avance, la sortie du vote par anticipation, qui semble-t-il a très bien été pour les conservateurs aussi.
Est-ce que les libéraux disent pas la même chose aussi, que ça a bien sorti pour eux?
Que ça a bien sorti, oui, mais moi, les chiffres que j'ai entendus, c'est que ça a quand même sorti plus fort chez les conservateurs. Mais c'était quand même, le vote par anticipation était quand même avant le sommet du G7 à la Malbaie, qui a quand même un peu changé les choses, parce que Trudeau, depuis ce temps-là, sa cote remonte. Donc, mon impression, c'est que Richard Martel a de bonnes chances de l'emporter, il est favori, que ça va peut-être être un peu plus serré que les sondages le laissaient entendre.
Je pense.
Je serais étonné qu'il l'emporte par 20 ou 25 points, là, comme les sondages le laissaient entendre. Mais il y a des chances que le candidat... Écoute, être entraîneur des Saguenayens de Chicoutimi pendant 8 ans, avec le bagou qu'il a...
Oui. Ça fait 6 mois qu'il travaille.
6 mois qu'il est sur le terrain... Très connu, alors que Lina Boivin, la candidate libérale, est beaucoup moins connue. Donc, ou bien Trudeau l'emporte ou Richard Martel l'emporte.
Voilà.
On verra bien ce qui se produira ce soir.
On s'entend là-dessus. Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Merci, Alec. Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec. Merci, Antoine.
Au revoir.
À demain.
À demain. Loïc Tassé s'amène avec l'Internationale dans un instant.